On commence. On commence quoi? Que dire? Comment dire? De manière à ce que, d'abord moi et ensuite vous autres, puissent comprendre par ce que je veux dire par la forme musicale des flux. C'est vrai que quand on cherche en tant que compositeur à créer des choses qui n'existent pas, on commence toujours par le contre-courant de ce qui est admis. Et dans la musique savante occidentale, qui est né au 8e siècle avec le chant grégorien, c'est-à-dire avec l'écriture et la quantification des valeurs distinguables, on pourrait dire ce qu'on distingue dans l'audition, c'est-à-dire les hauteurs, un son grave ou un son aigu. Et on pourrait dire son. Et voilà, dans la parole, il manque toujours les mots. C'est pour ça que j'écris. Parce que quand je parle, j'ai la capacité d'oublier ce que j'ai à dire. C'est la volonté de ranger. De ranger, de classer, pour pouvoir distinguer ce qui au départ ne se distingue pas. Donc pour distinguer des hauteurs différentes, à des positions fixées, on a créé des gammes, c'est-à-dire le calcul par des chiffres fixés, qui ne bouge pas, un rapport reste un rapport qui est fixe, c'est-à-dire un rapport de doublement par deux est fixe. Et il est reconnu. On l'appelle l'octave pour des raisons historiques qui sont confuses. Parce qu'octave, c'est le huitième. Huitième de quoi? C'est le huitième degré, en fait, du mode à sept tons, heptatonique. Donc, qui revient à doubler le premier ton. Aussi, la différence entre un ton et un son en musique, le ton est l'élément de l'harmonie. Le son est l'élément de l'identification des... qu'on a nommé timbre au XXe siècle, qui était le quatrième paramètre contrôlé par l'écriture, plus ou moins, et que dont les musiciens en fait virtuoses ont développé des techniques comme par exemple je pense au multiphonique, qui sont en fait une technique de production de plusieurs hauteurs en même temps, en fait, des accords. Mais le jeu du timbre sur les instruments a généré un autre point de vue en fait de ce que l'instrument de musique pouvait donner. Et surtout, il a été en anglais j'ai le mot tiens emphasize, mais par le désir en fait de diversité de sons, c'est-à-dire générer aussi bien par les synthétiseurs que ouvrir la palette en fait compositionnelle et instrumentale, ce qu'on a appelé l'objet sonore, qui a été une répercussion de l'enregistrement audio radiophonique, qui s'est répercuté dans la musique par l'intermédiaire de Pierre Schaeffer et surtout de Pierre Henry, qui a musicalisé l'affaire en fait. Et on se retrouve à la fin du XXe siècle avec une palette extrêmement large où tout le, tout ce qui sonne, en fait, devient un élément compositionnel. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans ce monde, dans le monde de la musique, tout le monde à Paris était en train de se disputer entre le déterminisme et l'indéterminisme. C'est John Cage qui a provoqué cette pourra dire controverse dans les années 50 et qui dans les années 80 n'était pas encore digéré. On imagine 30 ans. Il a mis vraiment un pavé dans la mare. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ce qu'il a commencé à remettre en question, en fait, c'est tout l'acquis depuis le 8e siècle, c'est-à-dire le désir incommensurable de quantifier la musique, ou en tous les cas de quantifier les éléments qui forment la musique. Parce que le compositeur se retrouve à doser des quantités. Une partition de musique est une ordonnance en fait, dans laquelle il y a des quantités qui sont ordonnées à doser. Et le musicien en fait, qui joue des partitions de musique est un exécutant, ce n'est pas un interprète, au sens de jouer des quantités. Le musicien interprète à partir du moment où il joue en fait, des qualités. Et tout l'évolution de la musique à ce moment-là, ben pour moi qui est rentré dans la mêlée, se situait exactement ici, c'est-à-dire aller au-delà du quantifié. Hein, le quantifié a quelque chose de mécanique. Et d'ailleurs, tout le principe de la quantification se retrouve dans les machines. Et la quantification génère des machines, des musiques mécaniques, c'est-à-dire des musiques horlogères, ou je ne sais pas comment pourrait-on dire, ou au mouvement, en tous les cas, pas du tout subtil, mais plutôt grossier. Et cette grossièreté, en fait, de la quantification, il fallait la contourner ou trouver une solution pour sortir de ça. L'arrivée des ordinateurs et des séquenceurs, surtout des séquenceurs numériques, qui quantifiaient le temps avec des divisions certainement beaucoup, pas des divisions très fines, mais en fait qui étaient utilisées pour leurs divisions basiques, c'est-à-dire en fait de mesure. Et dans la musique, ça s'entend. Et à force, ça devient insupportable parce qu'on a l'impression d'être gouverné par des machines. Le fait d'avoir commencé à composer, ou d'avoir commencé, c'est pas commencé, mais d'avoir été obligé en fait, de considérer l'ordinateur, la machine en fait, comme instrument de composition et d'exécution des musiques. Il y a eu plusieurs raisons pour ça, et la principale, en fait, c'était la défection des musiciens. Dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois le musicien qui voulait rester exécutant dans le monde de la musique classique, et qui s'est enfermé dans la musique classique, c'est-à-dire pas au-delà de Stravinsky, c'était encore Bartok et Stravinsky, c'était les derniers compositeurs supportés. Varese était déjà plus dans le coup. Ça faisait partie déjà de la musique insupportable contemporaine, comme c'était nommé à l'époque. Mais tous les compositeurs du XXe siècle, en fait, sont des personnes qui ont été à la fois valorisées et en même temps qui ont généré en fait une fermeture à partir de la fin du XXe siècle, sans vraiment de retour. Et il y a l'autre partie des musiciens qui, eux, en fait, se sont réfugiés dans l'improvisation, c'est-à-dire en fait le refus de se faire composer sa musique. Donc le compositeur, celui qui amène les idées, les différences et les originalités, s'est trouvé dans une situation où d'un côté il n'y avait plus de musiciens et de l'autre côté il y avait des machines. C'était vraiment Enfin, c'est toujours d'ailleurs en 2022 une situation qui n'a pas changé depuis plus de 40 ans. Alors les solutions, même déjà à l'époque, je savais qu'il y avait une situation à la fois en fait, sociale du monde de la musique qui était en train de chambouler. D'un côté à se refermer, de l'autre côté à s'enfuir dans des pratiques qui sont des pratiques aussi stéréotypées, hein, parce que l'improvisation, elle a ses stéréotypes, et le musicien joue avec ses acquis. Et justement, la part du compositeur, c'est justement de créer des choses qui n'existent pas, des manières de jouer, des manières de faire la même. Des manières de composer qui n'ont pas existé. Mais tout le problème est là. Donc, c'est vrai qu'au début, les solutions que j'ai apportées étaient des solutions pratiques, en fait. Et je me dis, mais la solution à cette affaire, c'est qu'un compositeur sans musicien, c'est rien du tout, quoi. C'est pas en écrivant des musiques qui seront jamais jouées que la musique sera jouée. Donc j'ai commencé en fait à ouvrir à proposer des musiques jeux. Le jeu en lui-même, c'est extraordinaire parce que si on compare une partition en fait avec un jeu, c'est comme si une partition c'était une partie d'un jeu. Et là, ça devenait vraiment intéressant parce que si on crée le jeu, en fait, on peut créer différentes parties. On ne va pas rejouer la même partie à chaque fois. C'est que aucun joueur ne s'imagine rejouer la même partie. Et là, à la fois, ça allait en fait dans le sens de ce que Cage en fait a libéré dans le sens de la quantification de la musique pour sa répétition exacte, qui par l'enregistrement audio en fait a été la partition a été supplantée par l'enregistrement audio, mais c'est vrai que les compositeurs au XXe siècle ne pouvaient pas l'admettre, ils écrivaient des partitions de musique électronique. Ça, c'est... Aujourd'hui, non, ça fait sourire, mais à l'époque, c'était considéré une musique sans partition était une musique en fait sans valeur. Et c'est vrai que la bagarre, elle était à la fois inutile et puis elle était basée sur un désir de reconnaissance de chacun par les autres. C'était pas nécessaire tout ça, en fait. Donc le jeu, ça me semble être la continuité raisonnable en fait de ce qu'avait proposé John Cage avec ses partitions aléatoires, mais en même temps ça libérait aussi ce que John Cage en fait je trouve assez insupportable dans son travail. Eh bien c'était en fait la limitation des durées, c'est-à-dire que les durées dans le travail de John Cage sont fixées. Et je trouvais que, fixer une durée, c'était fixer une propriété, pareil. C'est-à-dire on se retrouve dans la même situation qu'avant, c'est-à-dire, en fait, une partition est un objet en fait, de commerce, et la musique enregistrée qui en ressort l'est aussi. Et là, on devait faire quelque chose, parce qu'il y avait vraiment un problème par rapport aussi aux droits d'auteur et au copyright qui nous ont pourri la vie et qui continue à nous pourrir la vie de compositeur. Le jeu, en fait, permettait à la fois de créer différentes parties, de libérer en fait la musique en fait d'une obligation de durée et surtout d'horaire et surtout d'emploi du temps. On joue pas à 19h ou à 20h ou à 20h30 après le dîner dans les salles de concert. On joue quand on veut, le temps qu'on veut. Et ça, c'est Roger Caillois qui m'a ouvert quand j'ai lu son livre Le jeu et les hommes, je me suis dit, ici, il y a une solution. Et puis aussi Gilles Deleuze avec Lewis Carroll. Parce qu'en fait, il y avait d'autres tentatives qui ont été, des tentatives en fait, de musique-jeu qui ont été réalisées par Xenakis. Mais ce qui est basé sur la théorie des jeux, c'est-à-dire la théorie de l'assaut et des attaques, en fait. Comme dans Duel pour un double orchestre. Mon collègue qui est de ma génération, John Zorn, pareil, en fait, il utilisait le jeu, mais c'est aussi la théorie des jeux et la théorie de l'attaque. Donc moi, je proposais un jeu sans hostilité, mais au contraire, comme le sens même de la musique, en fait, c'est de créer en fait de la sympathie et pour vibrer ensemble par sympathie. Ben, le son existe par sympathie. S'il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de son. Ou en tous les cas, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'audibilité vibratoire. Donc il fallait remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça. Alors, donc la musique jeu, à la fois mélanger la liberté de l'improvisation de l'instant et à la fois qui se retrouvait en fait dans un contexte ludique avec des règles et avec un contexte particulier qui était donné en fait par la composition même quoi. Après je ne revendique rien, je n'ai jamais rien revendiqué, les musiques elles sont gratuites, elles sont toujours disponibles quand on veut, pour ce qu'on veut et même pour les transformer, faire ce qu'on veut. Pour en revenir donc à la forme des flux, c'est ma passion de la turbulence de la matière qui m'a amené en fait à penser ça, et aussi le fait que j'étais assez proche de Xenakis et comprendre en fait son travail qu'il avait entamé avec tous ces mouvements et la division totale des pupitres, c'est-à-dire en fait l'indépendance de tous les musiciens de l'orchestre symphonique, était vraiment bon, c'était passionnant. Et bien sûr, en tant qu'élève, on a envie de dépasser le maître. Et donc, je me suis dirigé inopinément vers la turbulence. Et la turbulence, en fait, a donné un résultat, un premier résultat d'écriture aussi graphique, mais qui voulait sortir de la quantification par le dessin. C'est-à-dire, en fait, de dessiner des ondes sur le papier millimétré, comme faisait Xenakis avec ses droites. Moi, je faisais des courbes. Et les courbes, en fait, ce sont des mouvements changeants et des mouvements de vitesse changeante, en fait, des hauteurs. Donc, l'idée, c'était de créer un complexe de courbes qui générait une sensation de mouvement permanent et turbulent. Et donc la première pièce que j'avais écrite avec ça, c'était une commande, c'était pour le flûtiste Simon Desorger, un flûtiste anglais, et qui a joué ça en 83 à Londres. Ouais. Et bien sûr, l'entrée de ce type de mouvement ne pouvait que s'accompagner de la spatialisation et du mouvement des sons dans l'espace. C'est-à-dire la turbulence, elle devait être non seulement audible, mais elle devait être aussi perceptible dans l'espace, c'est-à-dire se sentir traversée par la vibration. Et c'est ce qu'on a réalisé en 83 à Londres. Ensuite, donc, c'est vrai qu'j'avais ce projet de musique pour orchestrale, mais à ce moment-là, l'orchestre n'était plus disponible au compositeur. C'était en 82, 83, c'était d'ailleurs le monde de l'édition n'était disponible pour les jeunes compositeurs. Donc là, je me retrouve dans une situation où la création de l'écriture rondale qui était spécifique en fait à cette musique des flux, il fallait que je trouve d'autres choses, quoi. Et j'ai cherché, bien sûr, qu'est-ce que je pouvais faire dans la limitation imposée d'être sans musicien. Et c'est ce qui s'est passé après avec cette partition, cette musique que j'ai appelé « Il m'était impossible de donner un titre à ce phénomène, car l'indicible au-delà des bords extrêmes de l'espace et du temps ne porte pas de nom. » J'aimais bien les mystères inconnaissables. Et je les aime toujours, d'ailleurs. Et c'était aussi une revanche sur la guitare classique, qui était un instrument épouvantable, avec une technique épouvantable pour les étudiants. C'est affreux. Et donc, développer toute une technique de de génération du son avec un bout de bois ou un bâton colophané sur des cordes. Et à l'époque, c'est vrai que je suivais les cours d'Emile Lep à l'université Paris 6, hein, ou 7, je ne sais plus, parce que comme elles sont mêlées, à Jussieu. Toutes ces recherches en fait en physique acoustique m'avaient passionné au point où de chercher à provoquer, à jouer les sons impossibles et inconnus. Donc la guitare classique, des cordes frottées, des cordes de nylon frottées avec un bâton de bois générait une palette de sonorités inouïes. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'au départ, je destinais en fait cette musique comme compositeur ou même musicien. Mais et quand on a fait la première à l'IRCAM, un compositeur Todd McCover qui s'occupait du concert m'a dit qu'il trouvait personne pour jouer cette musique et que c'est moi qui avais travaillé dessus et que c'est moi qui devais jouer. Donc en fait, c'est une musique qui m'a café que je suis devenu musicien parce que personne ne voulait jouer ce que j'écrivais. Bon, le résultat est un gros chaos, hein, comme les gens qui entendent ça, qui sont habitués à écouter des mélodies dans des modes à 7 tons, quand ils se retrouvent au-delà de 15 tons, ils n'entendent plus rien. Et donc là, c'est vrai qu'avec tout ces informations de différence et cette différenciation en fait des différences je trouvais ça scandaleux, bien sûr, machin bidule quoi. Ça a été bon. C'est vrai que le premier concert, il a été assez fantastique, hein. C'est vrai que c'est dans un sens quelque part, je peux être fier parce que c'était un peu comme le sacre, hein, quand les gens hurlaient, se battaient dans la salle. Enfin bon. D'originalité. Mais ensuite, le problème en fait de cette musique, c'est que je trouvais trop stable. C'est-à-dire, on pouvait pas. L'idée, c'était de vouloir désaccorder les cordes en permanence pendant le jeu. Voilà, il aurait fallu faire une petite mécanique où il aurait fallu que je puisse avoir 6 personnes, chacun sur une. Sur une mécanique de la guitare, en bougeant sans arrêt. Mais bon. C'était même ludique à faire, on peut toujours le faire, ça peut être très drôle. Mais ça ne s'est pas fait. Et ensuite, j'ai mixé un petit peu cette affaire de musique-jeu avec, en même temps, ce désir de variation permanente et de mouvement permanent du temps. Et surtout aussi du diapason. Et des échelles. Parce qu'en fait, il y a eu ce que je n'ai pas dit à propos de la première pièce qui était avec l'écriture rondale, audition pour flûte. C'est là où j'ai initié les premières échelles non octaviantes acycliques, c'est-à-dire qui n'ont pas de cycle. Des échelles acycliques, en fait, qui n'ont pas de cycle. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, on va sortir en fait les instruments de leur division de l'octave. On va les faire acycliques. Et pour obtenir une échelle acyclique, c'est très simple. On prend l'ambitus entier de l'instrument et on le divise en un nombre de hauteurs. Et qui, bien sûr, les rapports... générait son non-octavian. C'est ensuite en fait, que j'ai appris l'existence d'Ivan Belchnegradsky et de ce qu'il a en fait, apporté en 1924 pour ouvrir la théorie musicale occidentale à la polyscalarité, qui a encore à l'époque n'était pas polyscalaire, parce qu'en fait ces échelles non-octaviantes et ces échelles en général, elles étaient multiples du ton égalisé, c'est-à-dire du ton égalisé à 200 cents. C'est-à-dire du ton qui est faux, comparé à la à la série, au rapport numérique de la série harmonique. Ce qu'on entend de la musique, nous occidentaux, ce sont des rapports qui sont faussés. Mais en même temps, ces rapports faussés donnent la possibilité de changer de ton. C'est ce qu'a amené Bach avec la transposition. Et là, en 1924, quand Wejnegradsky pose sa théorie, en fait, il pose quelque chose de plus loin. Et il est le seul à poser cette possibilité de polyscalarité. Il n'y a personne enfin, très peu en tous les cas. Les compositeurs à l'époque s'intéressaient à la microscalarité, enfin, c'est des micro-intervalles, ou comme les Américains disent, microtonal, c'est-à-dire en fait une micro des sons, des intervalles plus petits, mais qui restent en fait dans multiples du ton, c'est-à-dire 205. Ma proposition avec la théorie des champs scalaires, donc c'est d'élargir bien sûr cette tonalisation de la microscalarité, c'est-à-dire oh, c'est un peu fouet. Simplement de diversifier les échelles et de ne pas avoir, à partir du même intervalle, de diviser, même si c'est différent, qu'ils soient multiples de l'autre. Donc l'idée est de l'acyclisme. C'est marrant ça, hein, l'acyclisme. C'est ben, que tout intervalle peut être divisé par n'importe quel striage, comme disait Boulez. Le nombre de hauteurs est un choix libre. Et qu'il soit octavien ou pas. Donc à l'usage des échelles non octaviantes, ce qui est intéressant aussi, c'est que elles sont plus nombreuses que les échelles octaviantes. Si on va de la division de 5 à 92 ou 96, je m'en rappelle, 96, c'est pour un 16e de ton, y a 91 échelles octaviantes égales. Alors que des échelles non octaviantes, on en a découvert plus de 500 déjà. Donc l'octaviation devient une particularité de la non-octaviation. Ça, c'est la réalité acoustique. Après, la réalité morale harmonique, c'est autre chose. Et vu que nous vivons dans une médiocratie avancée et que la bêtise nous gouverne, même jusqu'à la vulgarité et l'idiotie, on n'est pas prêt encore d'avoir de constater cette évolution, enfin, en tous les cas, ce désir en fait, d'évolution vers l'épanouissement d'une théorie polyscalaire et d'une harmonie élargie à un point où, en fait, il n'y a que l'imagination qui devient la limite. En fait. Donc, cette affaire en fait, de quantifier, parce qu'en fait, il s'agit bien de ça, hein, une gamme, une échelle et un mode, ce sont des rapports quantifiés, des différences, et ce sont des différences calculées, qui restent en fait le calcul. Mais pour sortir de cette quantification, en fait, l'idée, en fait, c'était de multiplier cette quantification, la multiplier au point que on ne puisse plus percevoir en fait le quantifiable par sa quantité, mais le percevoir le quantifiable par sa qualité. C'est ça, hein, l'objectif, en fait. Donc la multiplicité des gammes, on va dire, elles sont très très proches les unes des autres, mais en fait, c'est pas l'intervalle qui compte, c'est en fait le contexte qui fait l'existence de l'intervalle. C'est-à-dire, par exemple, si je divise, si on, voilà, on divise par exemple une quinte, je sais pas moi, en 11 segments, ça va faire donc 11 intervalles dans une quinte, et proche, il peut y avoir, c'est vrai que si on divise 23 segments dans un octave, l'intervalle sera proche, mais ce ne sera pas la même fonction. C'est-à-dire, si on divise une quinte, on ne divise pas une octave, et si on divise une octave, on ne divise pas une quinte. Donc la différence, en fait, se perçoit aussi dans la fonction, en fait, de l'échelle, en fait, la fonction qu'on donne, en fait, à l'échelle. C'est important, ça aussi. Et aussi bien l'harmonie qui en découle est très intéressante aussi, parce qu'en fait, dans la polyscalarité, c'est que quand on pose, en fait, deux échelles l'une à côté de l'autre, par exemple, si on utilise le même ambitus divisé différemment, c'est pas... Si on divise, je sais pas, allez, restons sur la quinte ou la carte. Si on divise une carte en 3 et qu'on divise une carte en 5, où en fait on a un rapport de déphasage scalaire. Ben, c'est comme le 3 pour 4 par exemple. Dans le rythme, c'est pareil en fait pour les hauteurs qui sont en fait aussi un rythme dans un sens. Ça, Stockhausen, il a bien insisté là-dessus que en fait on perçoit des hauteurs. Comme les images en fait en mouvement, on perçoit en fait des discontinuités continues, qui sont des vitesses en fait. Donc pour en revenir à la forme des flux, donc je me suis trouvé confronté à une forme qui ne pouvait pas en fait se qui par essence ne peut pas se fixer, puisque c'est la turbulence même, et que la turbulence elle est changeante, et qu'en fait pour jouer la forme des flux, ben il y a quelques règles de base en fait, règles qui sont assez simples, c'est-à-dire en fait la première chose qui est claire en fait dans la forme des flux, c'est de se débarrasser en fait de tout ce qu'on connaît et de jouer en fait avec l'inconnu. Ça, c'est la base. Et la seconde chose, c'est qu'en fait, on s'efforce de jouer ce qui n'est pas identifiable. Et le fait de ne pas jouer l'identifié ou le remarqué ou le remarquable permet de déguiser sa perception de l'audition d'une manière phénoménale. Parce qu'en fait, on se rend compte très bien que de toute façon, à partir du moment où on joue et où on répète deux fois en fait, ce qu'on joue, même approximativement ou varié, on a un pouvoir de reconnaissance qui est proportionnel à quoi ? Au fait d'entendre, je ne sais pas. La mémoire, de toute façon, elle fonctionne. Et que même si on la force à ce qu'aucune vibration ne soit mémorisable, renforce la mémoire ou aiguise la mémoire en fait à mémoriser des choses en fait qu'on ne mémoriserait pas autrement. Donc ça c'est l'idée. La réalisation est beaucoup plus difficile, ça c'est clair. Parce qu'en tant que musicien, en fait, il faut jouer des choses qu'on ne connaît pas. Mais le problème, hein, de jouer des choses qu'on ne connaît pas, il faut de l'entraînement. Et si on s'entraîne à jouer des choses qu'on connaît, on ne peut pas s'entraîner à jouer des choses qu'on ne connaît pas. On se retrouve dans un paradoxe qui est intéressant, mais qui n'est pas impossible à résoudre. Il faut seulement bien comprendre en fait, d'abord de quoi il s'agit. Et j'essaye en fait, de développer... Cette démarche qui se perçoit par une forme, c'est pour ça que je l'ai appelée la forme des flux, avec les guitares volantes et à peu près tous les albums en fait tendent vers ça, qui ont été enregistrés, dont le dernier aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.